Un excellent début de soirée avec nous autres amateurs de sport. Donc, du basket ce soir, la finale Golden State contre les Cavaliers. Les Cavaliers de dos dans les câbles. Vegas va vivre la même chose demain, eux autres aussi à domicile. Je vous rappelle ce que je vous annonçais d'entrée de jeu en introduction de l'émission ce soir. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ou qui sortent du bureau à l'instant, je vous salue. Jacques Villeneuve va piloter la Ferrari numéro 12, la même que Gilles pilotait en 1978 quand il a remporté la première course de ses 6 victoires en Formule 1 et la première course de l'histoire du circuit que l'on connaît maintenant. Comme le circuit Gilles Villeneuve. Je pense que ça va être un beau moment juste avant la course de dimanche. Et maintenant, on accueille Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Philippe, tu as la tête au repêchage. Je le disais tout à l'heure un petit peu, j'évoquais ça avec Mario. Veux pas, on sent la finale là, qui arrive à sa fin bientôt. Et on commence à penser à ce qui s'en vient. Puis c'est là que ça va vraiment prendre forme la prochaine saison du Canadien, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Puis je pense que la séance d'évaluation des meilleurs espoirs qui a eu lieu là, dans les derniers jours où Trevor Timmons s'est exprimé sur la façon dont le Canadien envisageait cette séance-là de repêchage nous a encore rapproché de l'échéance et nous fait comprendre aussi à quel point c'est le choix que le Canadien va faire en première ronde avec son troisième choix au total. Ça risque vraiment, Mario, d'être déterminant pour l'avenir à moyen terme du Canadien au niveau de ses performances sur la patinoire. Je ne me souviens pas d'un choix aussi déterminant. Parce que tu regardes, quand Marc Bergevin est arrivé comme directeur général de l'équipe en 2012, le Canadien avait également le troisième choix. Et là, l'équipe a repêché Alex Galchenyuk. Mais à ce moment-là, on s'entendait tous pour dire que l'avenir du Canadien était quand même prometteur. Il y avait un Carey Price qui était encore jeune, un Piqué Subban qui était encore jeune, un Max Pacioretty qui était encore jeune, un Brendan Gallagher qui venait de connaître une bonne première saison. Le Canadien avait pas l'air d'une équipe un peu vieille puis qui s'était pas renouvelée. Au contraire, c'était une équipe qui avait manifestement des éléments qui étaient prometteurs pour plusieurs années. Mais là, le temps a passé. Hein? 2012, ça fait déjà 6 ans. Subban n'est plus là. Pacioretty a connu une saison très décevante. Carey Price aussi. Alors, tout ce qu'on espérait, ça ne s'est pas matérialisé. Et là, le Canadien a plutôt l'air d'une équipe dont les stars sont un peu vieillissantes. La relève n'est pas tellement riche non plus. Et là, tu dis, hey, ce troisième choix cette année-là, il prend une influence déterminante pour l'avenir, comme on n'a pas vu en 2012. Pour moi, là, le troisième choix de 2012, puis le troisième choix de cette année, c'est deux mondes au niveau de l'impact.
Et est-ce que tu vas tomber en bas de ta chaise si le Canadien décide de ne pas repêcher troisième, décide de repêcher septième ou décide de... Non, mais selon le joueur qui s'identifie, s'il pense qu'il peut être disponible, puis qu'eux autres... Tu sais, Garth Forsberg, il a quoi? Il a repêché 10-11. Il est-tu moins bon que Galchenyuk?
Non, non, puis Subban est un choix de deuxième ronde. Shea Weber est un choix de deuxième ronde.
Kuznetsov a été repêché après Thénardier. On peut en parler pendant une demi-heure.
Puis Martin Saint-Louis n'a pas été repêché.
Et Daniel Brière et tant d'autres, et Jonathan Marchessault, puis Adam Oates n'a pas été... Tu sais, regarde, il y en a.
Mais ce serait un gros risque. Ce serait un gros risque au niveau de la perception. Parce que ça, là, c'est le genre de décision. Je ne sais pas si le Canadien, qui demeure une organisation quand même assez conservatrice, je ne sais pas s'il serait prêt à courir ce risque-là, surtout après une saison qui a été très décevante.
Tu me permets-tu de twister ça différemment, de te tourner ça différemment? Je suis pas en désaccord avec toi. C'est quand tu es en confiance, ça va bien, tu te sens peut-être plus audacieux, prêt à prendre des risques. Et là, quand tu as mangé 2-3 mornifs, puis que tu saignes du nez, puis tout ça, puis que tu as l'impression qu'il y a une reconquête de ton public, peut-être que ça peut amener une réflexion différente.
Ouais, moi j'ai l'impression, tu sais, puis c'est un pari parce que, tu sais, disons que le Canadien dit, hey, nous, notre joueur, là, c'est, je vais nommer un nom comme ça, là, disons, Jesperi Kotkaniemi, le jeune joueur de centre dont on ne parlait pas il y a un mois, puis là, qui sans doute là, va être un des plus haut repêché. Bon, disons qu'il n'est pas repêché là, dans les premiers, puis que le Canadien voit venir ça. Puis, hey, on pourrait peut-être le repêcher au 7e rang. On fait un échange avec l'équipe qui repêche 7e. Puis, bon, puis tout ça fonctionne, puis il repêche ce joueur-là au 7e rang. Mais là, ça met sur le joueur en question une pression énorme. Parce que si les trois premiers choix, notamment le troisième, s'il y a une carrière sensationnelle dans la Ligue nationale, disons que c'est Zadina qui est repêché troisième, puis qu'il y a une carrière fantastique et que le choix du Canadien au 7e rang dans cette hypothèse-là, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Tu sais, tu vis longtemps. longtemps avec les conséquences. Puis moi, je suis entièrement, je pense que tu mets le doigt sur un élément très important. Quand tu es en confiance, quand tu es en une équipe qui est sur la montée, que tu as déjà des jeunes qui sont prometteurs, que ton réseau de filiales a de nombreux espoirs, que tu as repêché au cours des deux dernières années des joueurs qui sont encore chez les juniors, mais qui ont énormément de potentiel, c'est une chose. Tu peux peut-être prendre un risque. Mais quand tu es dans la situation du Canadien, à mon avis, c'est une analyse différente. Et là, j'imagine, moi, Marc Bergevin allait annoncer à Jeff Molson, qui regarde, je vais reculer au repêchage. Quand il vient de nous dire, à plusieurs reprises, dans au moins trois entrevues, il nous a dit, écoute, quand tu as souffert autant qu'on a souffert cette année, faut que tu aies ta récompense. Puis ta récompense, c'est un haut choix au repêchage. Et ça prendrait toute une transaction pour modifier cette perception-là.
Écoute, j'ai hâte de voir. Puis en même temps, tu sais, puis juste pour conclure là-dessus, prenons à titre, disons, de cas type, là, le cas de Galchenyuk que tu nous as présenté d'entrée de jeu, parce que c'est un troisième choix également au total. On est 6 ans après le repêchage de Galchenyuk. Et de mettre autant de pression sur un choix de repêchage, on voit que quelque part, je veux dire, tu sais, c'est pas un joueur, Garovitch, qu'il y a une personne qui gagne tout seul. Non. Et là, c'est sûr qu'on va mettre beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'attentes que le Canadien rebondisse rapidement. Mais Galchenyuk n'a pas changé tant que ça le cours de l'histoire du Canadien de Montréal.
Non, pas
et
du
encore
tout.
À ce jour, on se demande s'il est à échanger ou s'il va devenir meilleur avec le Canadien. Puis on pense que c'était pas le meilleur gars de son année. Alors, dans combien d'années on va être capable de mesurer, d'analyser la décision que Marc Bergevin et Timmins et compagnie vont prendre une couple de semaines?
Ben, au départ, je te répondrais à ça, Mario, que si on veut aider le joueur en question, il faudrait statuer sur sa position dès le départ. Alors, je reviens au jeune Finlandais, là, Kotkaniemi, dont on parle beaucoup. Là, c'est un joueur de centre naturel, entre guillemets, mais là, il a joué les deux dernières saisons à l'aile. Est-ce qu'on reviendra encore avec le 7 années problème ailier ou centre?
C'est pas si naturel que ça. Quand quelqu'un joue plus là, je trouve.
Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, il a joué là, naturel, jusqu'à 15 ans. Là. C'est encore bien jeune, ou 16 ans. Alors,
mais un bon joueur de hockey, c'est un bon joueur de hockey.
Ouais, mais il faudrait statuer.
Un bon joueur de hockey.
Ouais, mais il faut statuer aussi sur la position. Et ça, c'est quand même renversant qu'encore aujourd'hui, on parle encore de Galchenyuk. Là, semble-t-il qu'on est pas mal fixé, là, ça semble-t-il que c'est un ailier. Ça aurait pris 6 ans pour s'en apercevoir.
Mais je vais remonter encore dans le repêchage. Écoute, je veux pas prendre du temps sur les autres sujets, mais je trouve que c'est une discussion intéressante. Et c'est enfin en même temps, parce que le repêchage, c'est difficile de trancher là, très clairement, mais prends Kuznetsov, qu'on a en pleine face comme un candidat au trophée Conn Smythe, que le Canadien aurait pu repêcher, comme bien d'autres qui sont ailleurs, mais ils ont décidé de pas le repêcher parce qu'il y avait la menace de la KHL, puis ça faisait bien peur. Ça ne nous a pas empêché d'embaucher une maudite gang de Russes pareil, là, mais celui-là, c'était un problème. Pourquoi? Parce que là, il avait identifié qu'il fallait quoi? Se grossir et il fallait rebâtir la ligne bleue. Alors, ils ont repêché position, ils ont repêché gabarit, ils ont repêché Tenordi. Et on est passé à côté d'un méchant bon joueur.
Je
challenge ton idée de repêcher la position, mais je sais que Danny est d'accord. Tout le monde parle d'un centre, transaction, mais c'est pour la conversation, je trouve ça intéressant.
Ouais. Mais moi, c'est pas tant... Je dis pas vraiment qu'il faut repêcher le joueur de centre.
Ah, je t'ai mal compris d'abord.
Non, c'est pas vraiment ça que je dis. Ce que je dis essentiellement, c'est que le Canadien joue plus gros qu'il n'a jamais joué depuis très longtemps au repêchage. Année, évidemment, les équipes n'ont pas le droit de se tromper. On est tous d'accord là-dessus. Il ne faut pas que tu te trompes au repêchage, surtout que quand tu as un des premiers choix.
Oui.
Mais mon argument, c'est le suivant. C'est que quand une équipe est dans une position aussi précaire que le Canadien, l'équipe, l'organisation ne génère pas un grand nombre d'espoirs, il y a peu de joueurs de grands talents qui attendent dans le réseau, là, t'as encore moins le droit de te tromper. Puis c'est là que je fais la différence avec 2012, Mario, parce qu'en 2012, le Canadien était pas dans la même position. Le Canadien avait eu une très mauvaise année, mais il y avait plusieurs bons jeunes joueurs qui s'apprêtaient à devenir dans la fleur de l'âge. Price, Pacioretty, Subban. Alors, la situation était complètement différente. Cette année, les vedettes sont vieillissantes. Price aura plus de 30 ans. Weber a plus de 30 ans. Pacioretty, on sait pas trop. Qu'est-ce que ça va donner? Coudonc, l'an dernier, est-ce que ça a été le début d'une mauvaise période ou c'est seulement un accident? On le sait pas encore, mais on espère tous qu'il rebondisse, mais est-ce qu'il le fera? Alors, je trouve que cette année, la pression sur le Canadien, elle est énorme et tu peux pas te permettre de te tromper. Et là, surtout que c'est encore plus difficile parce que tout le monde s'entend sur le premier choix, ça va être Rasmus Dahlin. Mais là, après ça, pour les choix 2, 3, 4, 5, puis peut-être même 6, là, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y en a qui voient Zadina, il y en a qui vont voir
Mais t'as raison, Philippe. Et il y en a qui voient même des gars classés 10 être meilleurs que des gars classés 2. Et c'est pour ça qu'un scénario d'intervertir les choix ou de d'échanger ou de descendre le repêchage serait peut-être pas une mesure populaire, mais il faut que tu sois sûr de toi. Puis en même temps,
Il faut vraiment que tu sois sûr de toi.
Puis d'autre part, moi, je suis pas sûr du dépistage du Canadien, là. Fait que je vais te dire que le scénario... C'est pas le scénario que je favorise si tu as confiance dans ton dépistage, mais le scénario d'échanger ton troisième choix pour un joueur qui peut contribuer, on ne l'a pas abordé dans notre discussion.
Ou bien sans ça, l'autre option, c'est que tu as tellement de choix en deuxième ronde, c'est
d'aller en chercher un deuxième en première ronde.
Ben oui, en première ronde.
Ça, c'est pas écarté.
Mais
3
que tu fais
et
ça?
7, 3 et 8 peut-être.
Ça aussi, c'est une option. Bref, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point aussi ça va être un marché dynamique cette année. T'sais, est-ce qu'il y aura beaucoup de transactions? Est-ce qu'il n'y en aura pas beaucoup? Parce qu'on sait souvent qu'il y a un effet un peu domino. Quand il y a des équipes qui commencent à bouger, souvent, ça va inciter les autres à le faire également parce qu'ils voient généralement un adversaire direct, là, un adversaire intradivisionnel qui savent qu'il va falloir qu'ils devancent au classement pour faire les séries. Si une équipe comme celle-là bouge, là, tu dis « Oh, moi, je fais quoi? » Là, tu sais, lui vient de s'améliorer. Là, moi, je ne peux pas rester en retard. Alors, quand tu commences à avoir des transactions, on le voit bien à la date limite des transactions, tu sais, quand il commence à avoir des échanges puis que la machine se met en branle, là, souvent, whoop, une équipe d'une division fait un gros échange, hop, il y a quelqu'un qui va vite répliquer dans la même division pour essayer de tenir le rythme. Alors, j'ai hâte de voir si on aura un scénario un peu comme celui-là au repêchage, parce qu'on le sait, là, comme amateur, c'est le fun quand il y a du mouvement, ou si ce sera tout simplement un repêchage où chaque équipe choisira à son rang présélectionné, puis ça s'en ira comme ça sans beaucoup de surprises. Mais c'est sûr que cette année, non seulement la première ronde, bon, elle va être déterminante pour le Canadien, mais tout le monde a hâte de voir la deuxième ronde aussi. Ça, c'est une particularité avec les autres années qu'on n'avait pas, là, autant de choix en deuxième ronde. C'est assez spécial et il y a certainement une possibilité pour le Canadien là, de réussir des choses intéressantes.
Toi qui as choisi les Caps depuis quelques rondes, Philippe, je te laisse sur une confidence en terminant sur la musique. Rendu là, après toutes ces années de voir Washington échouer, je serais presque déçu de les voir l'échapper. Alors,
Ben oui.
Mais j'aimerais ça que Vegas gagne demain.
Depuis 1974 qu'ils attendent.
Salut Philippe.
Salut.
On s'en parle vendredi. On revient avec Danny.